Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Du procès Mera, l'accusation de viol portée contre le ministre Gérald Darmanin en passant par les hésitations gouvernementales sur le sort à réserver aux djihadistes français capturés par les forces kurdes, l'actualité judiciaire et le débat public sont rythmés, semble-t-il, pour longtemps par les affaires de violences terroristes et sexuelles, sujet passionné, sujet émouvant. Ces crimes suscitent chez l'opinion publique une double exigence de sévérité, de rapidité de la part de l'institution judiciaire. Pourtant, les temps médiatiques et politique ne saurait se confondre avec le rythme juridique dont la lenteur est garante de rigueur. Comment, dans ces conditions, concilier présomption d'innocence et respect des victimes ? Pour en parler, je suis en compagnie d'une avocate, Marie Dauzé. Bonjour, vous êtes co-auteur du livre « La cour d'assises quand un avocat et un juré délibèrent » chez Dalloz. À côté de vous, Didier Rebut, professeur de droit à l'université Panthéon-Assas et spécialiste du droit pénal. Didier Rebut, je parlais du formalisme de la règle de droit, peut-être faudrait est-il rappeler en quoi il consiste et puis nous dire si vous êtes inquiet pour ce principe à la base même de la démocratie.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui la justice subit des pressions, elle a toujours subi des pressions. Mais là, elles sont particulièrement fortes et elles pèsent sur certains de ses principes fondamentaux. La présomption d'innocence, le principe d'individualisation des peines aussi. C'est vrai que par rapport à certaines réactions, on peut se poser la question dans quelle mesure ce principe d'individualisation est bien respecté. Puis le principe de proportionnalité, qui est aussi un principe constitutionnel, un principe fondamental, qui veut que, à une infraction répondent une sanction qui soit totalement proportionnelle. Alors, on a des pressions. Ces pressions, elles sont médiatiques. Elles sont certainement aussi accentuées, d'abord, parce que par rapport au fait que vous avez dit, que ce soit les violences sexuelles ou les violences terroristes, même si elles sont peut-être sans doute pas totalement comparables, ce sont quand même des faits qui ont particulièrement été ressentis très fortement, à la fois, évidemment, par les victimes, mais au-delà, par la population qui voit une atteinte à des valeurs fondamentales, à son mode de vie. Donc ça, ça fait forcément une pression sur la société. Des pressions qui sont liées aux réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui aujourd'hui pénètrent quasiment le prétoire, sont constamment présents au sein de ce prétoire et qui font également ces pressions sur la justice.
Maître Dauzé.
Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, les réseaux sociaux sont en train de métamorphoser le paysage judiciaire.
Pourquoi ?
Vous savez, moi, quand je plaide jusqu'alors, je plaidais pour un tribunal, pour le devant de la scène, pour essayer d'expliquer. Et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a une telle pression derrière que je ne sais plus très bien pour qui je plaide. On le voit...
Donnez-nous des exemples.
Mais vous avez un exemple là, dans l'actualité. On est en train d'assister à un triste spectacle avec le procès Jawal.
Jawal Ben Daoud, donc...
Exactement.
Rappelez-nous.
Jawal Ben Daoud, qui est
ce logeur.
Voilà, ce logeur très très indirectement lié aux attentats de novembre, qui comparaît devant la 16e chambre du tribunal de grande instance de Paris depuis quelques jours, et l'on voit bien là que nous sommes dans un inventaire à la Prévert de petites phrases, de jolies répliques, et qu'on est en train de transformer un procès en show, tout simplement en show. Et je crois que c'est extrêmement compliqué et triste pour celui qui est prévenu, comme pour les victimes.
Justement, je vais vous faire entendre un extrait d'un reportage sur le procès de Jawal Ben Daoud.
Déjà, il a fait le show devant BFM le jour de la prise de Saint-Denis. Donc je m'attendais à ce que ce soit un peu comme ça. Mais ce qui m'a énormément déçu, outre ses propos et son attitude, ce sont les rires des gens derrière moi. Ça, franchement... Je ne comprends pas. Moi, j'étais pas là venu pour un spectacle, ni pour un show, et encore moins au Jawad Comedy Club.
Maître Dauzé, alors, si vous essayez d'analyser ce procès, d'abord, de quoi est-il accusé Jawal Ben Daoud ? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel procès ?
Mais c'est ça la difficulté. C'est lorsqu'on entend les victimes dire « nous sommes venus ici pour comprendre ». Il faut surtout comprendre que ce procès est très, très, très indirectement lié aux attentats. Celui-ci est un lampiste, tout simplement. Il a logé, à un moment donné, des personnes sans trop savoir exactement ce qu'elles allaient faire. Mais on donne une dimension émotionnelle extrêmement forte parce qu'il faut contenter, à un moment donné, des victimes qui ont soif de savoir et vont se multiplier ainsi, peut-être, ou en tout cas c'est ce qui semble se dessiner, des procès qui n'ont qu'un lien très indirect avec le cœur même de la souffrance des victimes, qui sont les attentats.
Mais alors comment justifier que cet homme soit emprisonné depuis quasiment les attentats, puisqu'il a été interpellé immédiatement après ?
Mais justement, je pense que actuellement sur la détention provisoire, en tout cas en matière de justice antiterroriste, et très souvent on a peur de la justice antiterroriste française, ou en tout cas on s'en défie, et on y reviendra probablement sur un autre sujet, il n'y a pas lieu de s'en défier parce que dans tous ces procès-là, la détention provisoire est une arme. Et elle est là finalement pour calmer l'opinion publique. Moi qui suis avocat de la défense, je sais combien à chaque fois que nous passons devant le juge des libertés de la détention, celui-ci explique à la personne mise en examen et présumée innocente « Je ne vais pas vous placer sous contrôle judiciaire » parce qu'on ne le comprendrait pas. L'opinion publique ne le comprendrait pas. Et nous arrivons finalement avec 1 an, 2 ans de détention provisoire dans des dossiers qui, parce qu'elles concernent la justice antiterroriste, n'auraient pas donné lieu à autant de détention provisoire.
Mais vous dites ça, effectivement, d'une voix calme, maître Dauzet, mais c'est tout à fait explosif ce que vous dites, parce que jamais la justice n'a été rendue pour une entité nommée opinion publique.
Mais la justice antiterroriste est d'abord une justice d'exception. En soi, elle est une justice d'exception. Il y a des règles dérogatoires et beaucoup plus sévères que dans le droit commun. Mais la jurisprudence est aussi une jurisprudence d'exception. Les magistrats appliquent le droit de façon exceptionnellement dure et sont effectivement hermétiques parfois au sacro-saint principe de la présomption d'innocence, et surtout ont extrêmement de mal désormais à faire confiance à la personne qui est en attente d'être jugée et qui pourrait être placée sous contrôle judiciaire.
Mais moi je pensais que l'un des principes du droit français, Didier Rebut, vous qui êtes professeur de droit, était, comme le disait Ricoeur, certains ont lu Ricoeur au sommet de l'État paraît-il, il faut juger de manière ordinaire les crimes extraordinaires, y compris donc pour les crimes terroristes.
Oui, alors après il peut y avoir un débat juridique, on ne va pas rentrer dedans sur est-ce que c'est une véritable justice d'exception ou une justice spécialisée. Donc là, il peut y avoir des discussions. C'est vrai que, beaucoup d'avocats disent justice d'exception, ce qu'ils essayent de nous renvoyer à l'idée de la Cour de sûreté de l'État. Techniquement, il y a des choses que l'on pourrait contester sur ce point, tout en ne niant pas que c'est une justice qui est une justice spécialisée, qui, c'est vrai, fonctionne différemment, mais qui fonctionne différemment avec un certain nombre de règles que l'on retrouve dans d'autres domaines. Après, c'est certain que concernant ce type de faits, comme vous le disais précédemment, ce sont des faits qui portent atteinte à des victimes, qui ont porté atteinte à des victimes précises, qui méritent de ce titre une réponse qui est adaptée au fait lui-même. Maintenant, la justice n'a jamais été totalement imperméable à l'opinion publique. Il ne s'agit pas qu'elle réagisse et qu'elle réponde à toutes les demandes de l'opinion publique. Bien entendu, ce n'est pas son rôle. Mais il est évident que le juge ne peut pas non plus ignorer totalement l'impact qui a été causé sur la société par un certain nombre de faits. Alors, son rôle, c'est de proportionner sa réponse à cet impact, de ne pas céder totalement à l'opinion publique, mais il ne peut pas faire comme si cet impact n'existait pas.
Oui, alors ça, c'est ce que disait par exemple Durkheim lorsqu'il disait « le quantum de la peine est proportionné à la manière dont la conscience commune est choquée par le crime commis ». Mais Didier Rebut, dans le cas de Jawal Ben Daoud, sauf si je suis d'une infinie candeur, cet homme a logé des terroristes. Il est compliqué de savoir avec certitude, je vais le dire de manière euphémisée, qu'il savait que c'était des terroristes. Et là, il en est à 3 ans de détention. Comment expliquer ça? Est-ce que on peut imaginer, je vois Marie Dauzet qui fait une grimace, est-ce que là, il n'y a pas le risque, effectivement, d'avoir plus une victime expiatoire qu'un complice?
Oui, enfin, c'est vrai que vu au regard, objectivement, de ce qui lui est aujourd'hui reproché, on peut considérer que cette détention provisoire est longue. Elle est très longue. Maintenant, si elle est intervenue, c'est parce que les textes le prévoient. C'est-à-dire que les juges n'ont pas violé la loi. Ils sont dans le cadre des textes. Sans doute, ils sont le maximum de l'application. Eh bien, les textes prévoient qu'il encourt une peine qui doit s'élever, je ne sais plus, je crois, à 6 ans d'emprisonnement. Ils ont prolongé...
Pour complicité.
Voilà, ils ont prolongé la détention provisoire autant qu'ils le pouvaient, puisqu'il y a quand même des règles dans ce domaine. Ils sont dans le cadre de la loi. Ça veut dire que le législateur, pour ce type de fait, celui qui vote la loi, a prévu qu'on pouvait faire une telle détention provisoire. Sans doute que ce maximum, en règle générale, n'est pas appliqué et que là, on y est. Mais par rapport à ce que je vous disais précédemment, ce n'est pas du tout pour autant une justification. Je ne connais pas le dossier, je ne peux pas parler de cela. Mais c'est sans doute que...
Quand vous dites que vous ne connaissez pas le dossier, parce que vous êtes comme nous, vous lisez les journaux, Didier Rebut. Vous dites que vous ne connaissez pas le dossier parce que finalement, vous imaginez que les juges ont peut-être l'idée qu'il en saurait plus qu'il ne le dit ?
Ah, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas me prononcer sur ce point.
Vous êtes prudent.
Ce serait totalement impossible de ma part. Mais ce que je peux constater, c'est que, évidemment, les juges sont restés dans le cadre de la loi. Alors, soit effectivement la loi est à ce moment-là est excessive et il faut la modifier, mais ils n'ont pas violé cette loi.
Maître Dauzé.
En matière de détention provisoire, les magistrats font ce qu'ils veulent de la loi. Je suis désolée de le dire, mais je l'affirme. Les critères, ils sont très simples. Comment est-ce qu'on peut renouveler une détention provisoire ? C'est plusieurs critères. C'est le risque de renouvellement de l'infraction. Cet homme a déjà été condamné. Ils n'auront pas de mal à considérer qu'il y a un risque de renouvellement de l'infraction.
Mais quoi, qu'il loge à nouveau des terroristes ?
Voilà. Quelle infraction ? En tout cas, il y a un risque de renouvellement de l'infraction. Le trouble à l'ordre public, bien évidemment l'ordre public, dans ce type de dossier, on peut imaginer ce que cela peut revêtir. Le risque de concertation avec les autres mis en examen, là, absolument pas. Et puis, le risque de pression sur les victimes, non plus. Mais vous aurez toujours ces deux critères parce que il a déjà été condamné, risque de renouvellement et trouble à l'ordre public jusqu'à une certaine mesure qui permettront aux magistrats de renouveler la détention provisoire. Mais là, 3 années, dans le cadre d'un procès correctionnel, c'est une détention provisoire criminelle. Il est en train de purger sa peine. Il la purge depuis plusieurs mois déjà.
Et il la purge, mais ce qui signifie que elle ne pourrait pas être inférieure à cela, parce que c'est ça aussi la question qui pourrait se poser, qui se pose d'ailleurs également dans un autre procès qui a été largement médiatisé, le procès du frère de Mohamed Merah. Et là, on voit chez ce personnage qui par ailleurs peut nous paraître odieux tant l'idéologie qu'il semble affectionner est évidemment une idéologie mortifère, mais les preuves, vous allez me dire là aussi ce que vous en pensez, maître, les preuves dont nous disposons, dont semblent disposer les juges pour le condamner, sont minces, pourrait-on dire ?
Oui, il y a cette difficulté de preuve, mais il y a surtout cette difficulté de peut-on supporter l'idée qu'il n'y ait pas de procès ? Ben voilà, le principal accusé n'est pas là. Il ne peut pas répondre de ses actes. Et est-on assez mûr pour supporter aujourd'hui une telle souffrance sans procès ? Je crois que c'est ça la question qui doit être posée.
Professeur Rebut.
Oui, ça sans doute. Hein. Il semble que, compte tenu des faits qui ont été commis, et quand on parle des attentats terroristes qui ont, à ce point, comme je le disais précédemment, impacté la société française, il y a visiblement une demande, une attente de procès, et qu'on peut, c'est vrai, s'interroger sur le rôle de ce procès et sur ce qu'on lui assigne par rapport à cette attente qui est une attente des victimes, mais qui, par-delà, est aussi une attente de la société. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste des réseaux terroristes, mais certains spécialistes disent que la mise en place d'actions terroristes nécessite quand même un organigramme extrêmement important et qu'il y aurait de toute façon beaucoup de gens qui prennent place dans cet organigramme et que ces procès peuvent porter sur ces personnes-là. Voilà, je me contente ici de répercuter ce que certains spécialistes disent.
Mais alors, en tant qu'avocate, Marie Dauzé, puisque vous semblez scandalisée par cette situation, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce qu'on se dit, par exemple, que si Jawal Ben Daoud est condamné, il pourra faire, par exemple, un pourvoi en cassation ? Est-ce qu'on se dit que, de toute façon, le caractère profondément contestable par rapport à la règle de droit, et on se fonde uniquement par rapport à la règle de ces procès apparaîtra au final, où on se dit que de toute façon, on est en train de voir évoluer la jurisprudence sur ces questions, par exemple, de terrorisme.
Mais il va être très compliqué pour les magistrats de condamner cette personne à une peine inférieure à la détention provisoire qu'il a déjà accomplie.
Donc, déjà
là, c'est une atteinte à la présomption d'innocence. Vous savez, moi, je défends quelqu'un qui est accusé d'une infraction terroriste, qui en première instance, devant le tribunal, a écopé de 2 années d'emprisonnement. Mmh. Il y a eu un appel du parquet. Il doit comparaître au mois de mai. Il a déjà purgé sa peine, il est toujours en détention. C'est-à-dire qu'il a déjà purgé la peine que les magistrats du premier degré ont décidé. Mais il reste en détention provisoire.
Mais pourquoi ?
Parce que les magistrats de la cour d'appel ont considéré qu'il devait rester en détention provisoire jusqu'à ce qu'elle siège.
C'est-à-dire qu'ils ont peur que celui-ci commette à nouveau un attentat ?
Je crois qu'il y a, il y a eu un véritable traumatisme avec le père Hamel, avec la jurisprudence, entre guillemets, ce que nous les pénalistes...
Dont le canard enchaîné d'ailleurs révèle ce matin, encore une fois, qu'il y a eu, semble-t-il, des failles dans l'antiterrorisme par rapport à la détection de la dangerosité de l'un des deux meurtriers du père
en
Hamel.
En tout cas, l'un des deux meurtriers était placé sous contrôle judiciaire et je crois que Galerie Saint-Éloi, là où les magistrats antiterroristes travaillent, cela a constitué un véritable traumatisme et qu'il est compliqué... dans le cadre d'une détention provisoire, à un moment donné, de se dire « prenons le risque ». Et très franchement, j'ai entendu à maintes reprises des magistrats expliquer cela à des personnes mises en examen en disant « voilà, depuis cette histoire-là, depuis cet échec-là, nous avons énormément de mal à faire confiance ».
C'est-à-dire que ce serait Saint-Étienne-du-Rouvray, donc l'assassinat du père Hamel, qui marquerait un point de bascule, professeur Rebut.
Alors, certainement que dans le domaine terroriste, il y a une sorte de principe de précaution qui aujourd'hui est appliqué par les juges, un petit peu d'ailleurs par l'État de son côté aussi, qui consiste à considérer qu'on ne prend aucun risque. Et la détention provisoire ou la condamnation définitive est perçue comme un moyen finalement de mettre la société à l'abri d'un certain nombre de personnes dont on redoute qu'elle pourrait agir. C'est-à-dire qu'elle ne répond plus qu'à un fait, elle ne répond plus seulement à un fait passé. Cette condamnation, elle est là aussi pour neutraliser un fait que l'on suppose ou que l'on craint à venir. Ça, c'est certain que c'est quelque chose que l'on observe dans cette utilisation de la détention, y compris dans certaines décisions judiciaires. Quand on pense à l'appel du parquet dans l'affaire du frère de Mohamed Merah, on peut se demander si le parquet ici, il a eu le maximum par rapport à une qualification, il sait qu'il ne peut pas avoir moins, et peut-être qu'il veut avoir plus. Pour précisément que cette personne reste le plus longtemps possible en détention, parce que pendant cette durée, eh bien cette personne, a priori, la société est à l'abri. Alors les gardiens de prison, peut-être un peu moins, mais la société, elle l'est.
On va continuer à évoquer cette question. On va aussi évoquer la question de ces djihadistes français qui vont aujourd'hui être jugés au Kurdistan, qui ont parfois des enfants qui vont parfois également être condamnés à des peines qui n'existent pas en France, je pense notamment à la peine de mort, avec toutes les questions que cela pose en votre compagnie, Maître Marie Dauzé, et avec vous, professeur Didier Rebut. Il est 8h sur France Culture.